Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoire d'Info, votre bulletin de nouvelles francophone pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest comme un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine dans l'actualité. Cette semaine, le GTNO nous dévoilait de nouvelles politiques entourant les centres d'auto-isolement du territoire. Le GTNO a également adopté un nouveau protocole de décision avec 9 gouvernements autochtones du territoire, un protocole unique au Canada. Mon collègue Baptiste Foisy a parlé avec le vice-président de la FFT, la Fédération franco-ténoise, qui fait front commun avec les autres organisations francophones du Canada pour réclamer des changements à la loi fédérale sur les langues officielles. Nous sommes présentement en pleine période de lutte contre la violence faite aux femmes. C'est une initiative mondiale qui a lieu jusqu'au 10 décembre. Ma collègue Cécile Antoine Maisonnade a exploré les initiatives qui sont prises au territoire du Nord-Ouest. J'ai également discuté avec la militante féministe Nancy McNeil. Et finalement, mon collègue Denis Laure nous parle de la 11e édition des prix Inspiration Arctique.
As of January 5th, 2021, the government of the Northwest Territories will no longer be covering the cost of using an isolation center.
La première ministre Caroline Cochrane en faisait l'annonce cette semaine. À partir du 5 janvier, tout voyageur qui revient au territoire du Nord-Ouest d'un voyage non essentiel devra payer lui-même les frais de son séjour en centre d'isolement. Une annonce qui impose à certaines personnes de revoir leur plan de voyage pour le temps des fêtes. Si le séjour n'est pas essentiel et que le voyageur ne peut s'auto-isoler à domicile à son retour au TNO, il devra être rentré au territoire le 4 janvier au plus tard pour avoir droit à un séjour sans frais dans l'un des hôtels désignés. Les personnes qui voyagent pour des raisons médicales ou familiales ou dont l'auto-isolement est recommandé par un professionnel de la santé ou encore qui est nécessaire en raison de circonstances particulières auront pour leur part accès sans frais aux chambres désignées par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. La première ministre dit avoir apporté ces modifications aux politiques d'isolement en regard de consultations menées auprès des gouvernements autochtones, des administrations communautaires et des partenaires du secteur des affaires. Comme indiqué dans un rapport émis le 24 novembre, la majorité des parties prenantes consultées s'est prononcée pour l'interruption du paiement des frais des centres d'auto-isolement pour les voyages non essentiels. Chaque séjour en centre d'isolement coûte en moyenne 4 000 $ par personne, selon la première ministre. Jusqu'à maintenant, 14,9 millions de dollars ont été dépensés pour ce service qui est géré par le secrétariat de coordination en réponse à la COVID-19. Ceci représenterait plus de la moitié des coûts consacrés à la mise en œuvre des arrêtés de santé publique. Toutefois, ces frais ne sont pas entièrement déboursés par les contribuables du territoire. Le gouvernement fédéral a récemment accordé un financement de 31,7 millions au gouvernement des TNO. Il s'agit du coût qui a été estimé par le GTNO pour le fonctionnement du secrétariat de coordination en réponse à la COVID-19 d'ici la fin de l'exercice financier. Le Conseil intergouvernemental des TNO, qui rassemble le gouvernement territorial et 9 gouvernements autochtones, a adopté le 2 décembre un protocole d'élaboration des lois sur les terres et les ressources. Il s'agit de la première étape d'un processus au terme duquel toutes les parties prenantes devront être sur un même pied d'égalité lors de l'élaboration de ces lois. Il s'agit d'une première au Canada. La première ministre Caroline Cochrane en a fait l'annonce en point de presse tout juste après l'adoption unanime du protocole par le Conseil intergouvernemental.
It will not be about consulting and just asking and then going ahead and doing what we want. This agreement says we will sit down at the table together and draft the applicable action and regulations.
Comme l'explique la première ministre, plusieurs juridictions au Canada doivent consulter les gouvernements autochtones avant d'aller de l'avant pour l'élaboration des lois et des régulations. Il y a toutefois une différence entre une simple consultation et une décision véritablement concertée. Ainsi, le GTNO ne pourra plus simplement consulter les gouvernements autochtones et prendre la décision finale. Tout le monde sera à la même table pour écrire les lois ensemble. Le grand chef du gouvernement Tlitchon, George McKenzie, également présent lors du point de presse, a parlé d'une journée importante pour les territoires du Nord-Ouest.
This is an important day for the territories. This protocol is a model for all Canadians. It shows how Indigenous people can take the rightful place in developing laws that affect the land and the resources. It shows how public government can embrace that partnership and recognize that fully including Indigenous government and is in everyone's interest.
Le grand chef du gouvernement Tlitchon des TNO, George McKenzie, parle d'une avancée pour tout le Canada. L'adoption d'un tel protocole démontre que les gouvernements publics sont en mesure de reconnaître les partenariats avec les gouvernements autochtones. Aux yeux du président de la Nation métisse des TNO, Gary Bailey, les TNO sont désormais instigateurs d'un modèle dont pourraient s'inspirer d'autres gouvernements.
Some people, a lot of people don't understand it, but it's for us as Aboriginal governments. As Grand Chief has said, we've been fighting for this since 1899, 1900, you know, since governments have come to our territory, and the GWT in the 50s have been here. So, you know, it's taken quite a few years to get to where we are, so it's a big accomplishment.
Bien des gens le comprennent mal, précise également M. Bailey, mais les peuples autochtones se battent pour un tel accord depuis le début du 20e siècle au territoire du Nord-Ouest. C'est donc un grand accomplissement. On apprenait le 1er décembre que l'arrestation effectuée dans la collectivité de Kinget au Nunavut le 1er juin dernier s'est déroulée en toute conformité à la loi. C'est ce qu'a déterminé une enquête criminelle externe effectuée par le service de police d'Ottawa. Dans le cadre d'une arrestation qui a été filmée et visionnée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, un résident de la collectivité de Kinget a été frappé par la portière ouverte d'un véhicule en mouvement de la GRC. Le service de police d'Ottawa a alors été mandaté pour mener une enquête criminelle externe sur cette arrestation, puisqu'elle impliquait des membres de la GRC. 14 témoins ont été interrogés dans le cadre de cette enquête. Les enquêteurs ont déterminé que l'incident n'était pas intentionnel, puisque le véhicule roulait alors sur une surface glissante et que la portière, qui était déjà ouverte, aurait alors basculé de façon accidentelle sur la victime. Il ne s'agit donc pas, aux yeux des enquêteurs, d'un geste criminel tel que décrit par le Code criminel du Canada. Ils ont également conclu qu'il n'y avait pas d'évidence déterminant que l'opération policière était dangereuse, ni qu'il y aurait eu négligence criminelle. Des voix se sont élevées cette semaine à travers le Canada dans les communautés francophones pour réclamer de l'action dans le dossier de la modernisation de la loi sur les langues officielles, la loi qui fait du français et de l'anglais les deux langues de service du gouvernement fédéral, a été adoptée il y a 50 ans. On demande aujourd'hui à ce qu'elle soit renforcée. Les territoires du Nord-Ouest ne font pas exception. Ici, c'est la Fédération franco-ténoise, la FFT, l'organisme porte-parole des francophones des TNO, qui réclame ces changements. Mon collègue Baptiste Foisy est ici pour nous en parler. Bonjour, Baptiste.
Bonjour, Thomas.
Donc, Baptiste, la Fédération franco-ténoise estime qu'il faut changer la loi sur les langues officielles.
Oui, tout à fait. La Fédération franco-ténoise, qui, dans ce dossier, se joint à la Fédération des communautés francophones et acadiennes pour réclamer des modifications à la loi sur les langues officielles. Je me suis entretenu à ce propos plus tôt cette semaine avec Étienne Croteau, qui est le vice-président de la FFT et également la personne qui siège là, sur la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Voici, quand je lui ai demandé, en fait, qu'est-ce qu'il en était de cette situation, on va écouter ce qu'il m'a répondu.
C'est peu sans dire là, que ça fait plus de 3 ans que des consultations, des recommandations, des mémoires déposées. Il y a eu une énumération détaillée des conséquences au jour le jour qu'on expérimente en tant que francophone en situation minoritaire, que le gouvernement a pu récolter et on pense qu'il y a tout en ce moment pour vraiment avancer le dossier puis déposer un projet de loi avant que la séance parlementaire se termine le 11 décembre.
Donc, il faut déposer un projet de loi avant le 11 décembre, selon le vice-président de la FFT, Étienne Croteau. Mais qu'est-ce qu'on aimerait voir dans cette législation?
Ben oui, c'est ça. Les communautés francophones, toute cette semaine, demandaient donc de l'action maintenant, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. J'ai posé la question à Étienne Croteau de la FFT. Il m'a répondu que, bon, d'abord, on aimerait que ce qui est de juridiction fédérale, qu'il n'y ait plus de question là, de est-ce que le nombre le permet, tout simplement, si c'est si c'est une juridiction fédérale, que ce soit acquis qu'on ait le service dans les deux langues officielles. Mais surtout, ce qu'on demande, ce sont certains mécanismes pour s'assurer que la loi qui est existante puisse être appliquée et en sorte que les services soient offerts, qu'il y ait certaines garanties. On écoute Étienne Croteau.
Donc, on veut quand même un cadre législatif, un tribunal administratif qui va pouvoir gérer ces plaintes-là et vraiment pouvoir donner des sanctions très claires.
Bon, donc la FFT ici se joint à une campagne nationale pour faire pression sur le gouvernement fédéral. Pourquoi maintenant, Baptiste?
Bien, j'ai posé la question à Étienne Croteau de la Fédération franco-ténoise, parce qu'effectivement, là, quand on regarde un peu le discours de tout ce qu'ont dit ces organismes tout au long de la semaine, c'est qu'il y avait urgence d'agir. Bon, la loi a quand même 50 ans. Pourquoi est-ce que c'est urgent à ce moment-là? C'est réellement une question de momentum politique. On pense auprès des organismes francophones que c'est le temps de faire pression parce qu'on craint notamment qu'il y ait un changement de gouvernement qui pourrait survenir et que le désir là, de modifier la loi puisse changer. On écoute Étienne Croteau.
Ben, l'urgence, c'est vraiment parce qu'il y a une campagne électorale qui s'en vient et il y a tellement de démarches qui ont été faites, là, on va dire, dans les 4 dernières années, que de ne pas aboutir à un dépôt de la loi pour commencer des travaux en Chambre parlementaire en janvier, ce serait une erreur.
Donc, tout ça, c'est pour la loi fédérale. En même temps, la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest fait, elle aussi, l'objet d'un examen en vue d'une possible révision. Est-ce que la Fédération franco-ténoise lorgne aussi du côté de l'Assemblée législative territoriale?
Bien, tout à fait. J'ai posé la question à Étienne Croteau parce que ça me semblait être dans l'ordre des choses. Si on s'intéresse à la modification de la loi fédérale, qu'en est-il de la loi territoriale? Étienne Croteau m'a assuré que la FFT ne fermait pas les yeux sur ce qui se passe ici même au territoire du Nord-Ouest. Est-ce que la FFT a l'intention de s'intéresser à la modification de la loi locale?
100%. Donc, nous, on a déjà parlé qu'on créerait un comité pour travailler sur un mémoire. Dans le timing, malheureusement, je ne peux pas donner de détails, mais c'est absolument la responsabilité de la FFT de le faire. Donc, je me nomme, moi, pour faire partie de ce comité-là. Voilà.
Le vice-président de la Fédération franco-ténoise, Étienne Croteau, qui se désigne lui-même comme interlocuteur dans le dossier de la révision de la loi sur les langues officielles. Baptiste Foisy, merci beaucoup.
Je vous en prie, Thomas.
Du 25 novembre au 10 décembre, le monde entier se colore de violet pour sensibiliser contre toute forme de violence sexiste. Les territoires du Nord-Ouest ne font pas exception. Ma collègue Cécile Antoine Maisonnade est avec nous pour nous en parler. Bonjour Cécile.
Bonjour Thomas.
Donc Cécile, c'est une campagne mondiale pour ces 16 jours de lutte. Comment est-ce qu'on vit ça au territoire du Nord-Ouest?
Alors, au territoire du Nord-Ouest, comme dans le reste du Canada, c'est le Conseil de la condition de la femme qui s'en occupe, l'antenne locale. Alors, c'est davantage une campagne sur les réseaux sociaux et sur leur site Internet, par rapport à la COVID, évidemment. Donc, par exemple, sur leur site Internet, ils publient chaque jour un sujet, ils mettent en lumière un sujet, un aspect particulier de la violence. Donc par exemple, le 1er décembre, c'était plus largement sur la violence sexuelle. Et ils montraient que de récentes statistiques montraient qu'au territoire du Nord-Ouest, nous avions le plus haut taux de violence sexuelle au pays, soit 7 fois plus important que dans le reste du pays. Par ailleurs, il y a aussi une campagne quand même qui est faite en réel. Ils ont distribué une centaine à peu près à Yellowknife seulement des rubans violets qu'on peut accrocher sur son manteau ou voilà, pendant ces 16 jours de lutte pour montrer qu'on soutient cette prévention et contre les violences sexistes.
Et très important à mentionner, Cécile, on va souligner ce dimanche la date importante du 6 décembre 1989 avec des activités en mémoire des 14 victimes de l'École polytechnique de Montréal. Ce ne sera pas uniquement virtuel cette année, donc il y a des activités extérieures qui vont se dérouler.
Oui, c'est ça. Alors, chaque année, à la même date, il y a un traditionnel rassemblement à la Chandelle, organisé également par le Conseil de la Condition de la Femme des Territoires du Nord-Ouest. Et ce dimanche, de 1h à 4h de l'après-midi, il va y avoir une veille ambulante, autoguidée, c'est comme ça qu'ils l'ont appelée, une vigie, pour que les gens puissent quand même venir se recueillir ensemble. Et il y aura 6 stations qui seront installées, qui traiteront chacune de la violence basée sur le genre. Ce sera sur le sentier Frame Lake et au parc Sambaquet.
Parfait, donc on le rappelle, c'est ce dimanche 6 décembre, les hommes, les femmes sont conviées à se présenter, à aller se recueillir. Cécile Antoine Maisonnade, c'était, je crois, votre dernière intervention sur les ondes de Radio Taïga.
Oui, dis-moi, en tout cas, cette émission.
Donc, on espère tout de même vous réentendre très bientôt. On invite aussi les auditeurs à vous lire, à lire d'ailleurs votre éditorial dans la prochaine édition du journal L'Aquilon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Cécile.
Merci, Thomas.
C'était il y a 3 mois. La ténoise Nancy McNeil tentait l'été dernier une prouesse sans précédent. Elle appelait les hommes de Yellowknife à créer un groupe, une coalition, une organisation ayant pour objectif de mettre fin aux violences fondées sur le genre et aux violences sexuelles sous toutes leurs formes. Cette publication d'une 20aine de paragraphes a été partagée 76 fois. Cet appel à l'action a d'ailleurs porté fruit. Depuis septembre, le groupe Answer the Call réunit des hommes de Yellowknife autour des enjeux liés aux violences subies par les femmes. 3 mois plus tard, quel regard porte la militante sur son appel à l'action? J'ai pu en discuter avec elle au courant de la semaine. Je lui ai demandé, entre autres, finalement, comment ça se passe quand on lance ce genre de message, ce genre de confrontation sur les médias sociaux. Je vous laisse l'écouter. Comment ça s'est passé pour vous à ce moment-là, au moment où vous avez publié cette lettre-là?
Well, I was scared. I was really, really worried, and I was nervous about what people might think and feel. I knew that how I felt, and I knew how my friends felt about these things that were happening. Sometimes you just have to say the thing, kind of give this idea a life of its own in order to let it live. So yeah, I was very scared about publishing it. I was expecting some retaliation. I was expecting people to disagree with me. I was very pleasantly surprised to realize that there were actually a lot of men out there who wanted to be involved in this, but also kind of felt like they didn't. They were being so respectful of our space that they weren't jumping into the fight. Mm-hmm. And I think we just had to kind of create the space and invite them into it.
Donc, Nancy McNeil, militante féministe, dit qu'elle avait en fait très peur, qu'elle était très inquiète et nerveuse au moment de publier son appel à l'action. Je le rappelle qu'il a été partagé 76 fois l'été dernier. Elle n'avait jamais fait ce type de confrontation. Se demandait ce qu'allaient en penser les gens. De notre côté, elle dit qu'elle savait très bien comment elle se sent, comment ses amis se sentent par rapport à ce genre de situation. Elle a consacré 20 ans à défendre les droits des femmes. Elle réalise aujourd'hui qu'elle doit inclure les hommes à la lutte. Elle dit également qu'elle a été agréablement surprise des réactions. Elle comprend que des hommes souhaitent s'engager. Elle dit aussi réaliser que plusieurs hommes veulent respecter l'espace de revendication des femmes et qu'ils hésitent à se prononcer haut et fort. Il s'agissait donc de créer un espace, de les y inviter. Elle dit que c'est très intéressant de voir la façon dont les hommes font face à cette confrontation. Je le rappelle, les hommes y font notamment face dans le cadre des rencontres Answer the Call organisées par le Ténois Jay Boast. Madame McNeil était notamment conférencière invitée lors de la dernière rencontre de la saison. Les rencontres se poursuivent au courant de l'hiver. Je vous invite également à lire l'entrevue complète que j'ai réalisée avec Madame Nancy McNeil dans la dernière édition du journal L'Aquilon. Chaque année, le gratin communautaire nordique se dispute les prix Inspiration Arctique qui sont remis par la Fondation de bienfaisance PIA. Les finalistes ont été nommés très récemment. Particulièrement cette année, le Réseau canadien des montagnes souhaite réunir les jeunes du Yukon, du Nunatsiavut et des territoires du Nord-Ouest. Je suis avec mon collègue Denis Laure pour nous en parler. Bonjour Denis.
Bonjour Thomas.
Denis, vous êtes entretenu avec la responsable de ce projet du Réseau canadien des montagnes.
Oui, c'est un projet dans la catégorie de prix pouvant atteindre 500 000 $. Leur objectif, c'est de former une vingtaine de jeunes de 18 à 30 ans, de les former donc à la recherche sur le terrain, à la fois dans une optique académique et une optique plus autochtone. Mais le projet lui-même réunirait des jeunes autochtones et non autochtones. Ce côté-là de rencontre, c'est une des cibles du projet, comme celle aussi de faire se rencontrer des jeunes de différentes parties du Canada. Le projet du Réseau canadien des montagnes veut se greffer au programme fédéral des gardiens autochtones. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je pense que c'est né il y a environ 3 ans. Donc, c'est un peu un programme de gestion de la nature qui peut prendre différentes formes. À Kugluktuk, par exemple, l'Association des chasseurs et trappeurs qui fait la surveillance des espèces sauvages en lien avec l'autonomie alimentaire. L'idée, dans ce cas-ci, du projet, c'est d'amener les jeunes à s'initier à ce programme-là et à rencontrer aussi des aînés et des scientifiques qui travaillent sur le Nord. Si vous voulez, on va écouter Norma Cassie, qui est la responsable du projet.
It's another way to educate our youth and give them the skills that they need for this world that we've left them, and that they can be able to face those challenges going forward together.
Donc, Norma Cassie, c'est une ancienne députée de Old Crow à l'Assemblée législative du Yukon, et c'est la co-directrice de recherche au Réseau canadien des montagnes. Ce qu'elle vient de dire, c'est que le projet, c'est une autre façon aussi d'éduquer les jeunes et de leur donner des aptitudes pour vivre dans un monde, dans le monde que nous leur laissons, et de faire face aux défis qui les attendent.
Le prix le plus prisé là, pour les projets les plus, disons, spectaculaires, c'est un prix d'$1 million. Quels sont les projets nommés cette année, Denis?
Oui, c'est toujours le prix qui est le plus publicisé année après année, mais il faut quand même dire qu'il y a d'autres projets qui sont aussi valables. Mais pour revenir à ces prix-là d'$1 million, il y a Naomi Igiziak et Darling Nukingak du Nunavut qui essaient encore pour une deuxième année de remporter la cagnotte avec un projet d'enseignement de musique dans l'ensemble du Nunavut. Deuxième projet en nomination, le Centre de réadaptation régionale Issyak-Arvik. Issyak-Arvik du Nunavik, qui présente un programme de lutte contre la toxicomanie qui passe par la réappropriation de l'identité de la culture inuit. Troisième projet, au Yukon, la Liard Aboriginal Women's Society veut renforcer les services et le soutien des victimes de violences, particulièrement les femmes et les jeunes filles autochtones, en mettant l'accent sur le savoir autochtone.
Parfait. Ben, on va avoir l'occasion de s'en parler cet hiver, Denis. La 9e remise de prix qui devait avoir lieu à Whitehorse sera présentée, comme on s'en doute, sous une formule virtuelle le 19 février prochain. Denis Laure, on invite les auditeurs aussi à lire l'article complet dans la prochaine édition du journal L'Aquilon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est un plaisir, Thomas. Bonjour à tout le monde.
Et voilà, c'est tout pour Territoire d'Info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera la dernière émission de la saison. D'ici là, je vous retrouve au micro de l'émission Bonjour là avec Baptiste Foisy. Passez une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.